Bonjour à tous. Pour un soir et un soir seulement, la grenouille a quitté son marigot marseillais pour venir tremper ses petites pattes dans les lagunes arlésiennes. En direct du cargo de nuit, bienvenue dans cette émission spéciale réalisée en partenariat avec le journal Le Ravi. Un ravi qui crèche à Arles, en effet. Précipitez-vous chez votre marchand de journaux pour lire le dossier complet consacré à cette troisième ville des Bouches-du-Rhône, actuellement en pleine mutation pour sortir d'une crise économique et d'un endettement record, et aborder, avec son patrimoine et ses grands projets, un renouveau où la culture est peut-être appelée à devenir le futur poumon économique de la ville. On va en discuter ce soir. Michel Guéraud et Jean-François Pouplein de la rédaction du Ravi sont avec moi ce soir. Salut à tous les deux.
Bonsoir.
Et sur ce plateau seront aussi présents Jean-Marc Payol, directeur artistique du Cargo de Nuit, qui nous accueille et qui nous parlera de la vie culturelle arlésienne au jour le jour, en dehors des grands événements que sont les rencontres internationales, par exemple, ou bien les férias. Monsieur Didier Olivry, qui représente le parc naturel régional de Camargue, est aussi avec nous. Arles est en effet doté d'un domaine naturel considérable. On verra ensemble comment cet or vert est susceptible de contribuer à un développement durable de la communauté. Monsieur Philippe Pouliquin, directeur adjoint à la direction à l'aménagement du territoire, est aussi avec nous et je l'en remercie. On discutera avec lui tout à l'heure des projets d'aménagement des friches ferroviaires qui sont actuellement en cours. Enfin, qui dit nouveau poumon économique suppose qu'il y ait aussi d'anciens poumons, peut-être un peu fatigués. On évoquera avec monsieur Serge Bonuti, représentant syndical de la CGT, le funeste destin de l'usine Lustucru et la désindustrialisation dont elle serait emblématique. On en parlera tout à l'heure. Au cours de cette émission, nous vous diffuserons aussi quelques extraits des émissions spéciales réalisées par Grenouille pour répondre à l'invitation du Ravi de crêcher à Arles. On écoutera en effet deux courts extraits des sujets d'Anouk Bhattar et de Marc Voiry. Avant d'entamer cette discussion, je vous rappelle qu'on vous invite à venir boire un coup tout à l'heure chez Ali. C'est 36 rue de la Roquette, alors venez nous y retrouver juste après cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h. Pour l'instant, on est en direct du Cargo de Nuit, un lieu qui participe très activement à la vie culturelle arlésienne, au plan musical notamment, et particulièrement dans le domaine des musiques actuelles. Jean-Marc Payol, quand est-ce que ce cargo a commencé à sillonner les nuits arlésiennes ?
Après beaucoup de préparation, le cargo a ouvert ses portes en septembre 1995. On est passé par plein d'étapes. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est pas lié qu'au cargo qu'à la ville d'Arles, c'est lié aux musiques actuelles. Vous savez que les musiques actuelles ont été soutenues, puis un peu moins, puis là, pas presque abandonnées. Je parle du ministère, bien sûr, et voilà, c'est une aventure qui a démarré maintenant depuis 13 ans, et on a trouvé, j'espère, enfin, une allure de croisière, même si on n'a pas envie de rester sur une allure stable.
Peut-être quelques mots sur la programmation de ce lieu.
C'est une programmation très éclectique. D'abord, la ville est très 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 liée à ce lieu. C'est une ville qui attire. On a des artistes qui sont un peu disproportionnés par rapport à notre capacité. On a accueilli les Rita Mitsuko pour leur retour après 5 ans d'absence. Et je pourrais en citer comme ça des tas. On a vu naître des artistes qui aujourd'hui maintenant font des zéniths, des grandes salles. Et il y a vraiment un attrait pour cette ville. Il y a... Quand on dit aux artistes, ben voilà, vous avez le choix entre Arles et X, souvent ils ont envie de venir ici. Et puis après 13 ans de fonctionnement, on a réussi à apporter un savoir-faire, un accueil, un son. Et voilà, il se trouve encore aujourd'hui qu'on peut recevoir des artistes et régionaux, et nationaux, et internationaux. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force.
Le rayonnement culturel d'Arles passe beaucoup par de grands événements, évidemment les rencontres internationales de la photographie, le festival Les Suds à Arles, les férias, mais au-delà de cet aspect événementiel de la culture, comment est-ce que s'articule, comment est-ce que fonctionne la vie culturelle au quotidien, au jour le jour dans la ville? Est-ce que c'est un désert pendant les mois d'hiver et puis ensuite de grands moments d'accueil du public pour la saison estivale? Ou bien est-ce que tout au long de l'année, vous-même et peut-être d'autres encore que vous citerez, participez à créer une véritable animation culturelle dans Arles?
Non, je crois que c'est peut-être moins médiatisé l'hiver, mais il y a une activité assez importante. Il suffit de regarder l'agenda de ce qui se passe au jour le jour dans la ville. C'est vrai que de l'école de la photo aux rencontres photo, à l'école numérique dont j'ai oublié le nom mais qui va me revenir, Supinfocom, voilà, les théâtres, les associations, il y a un très large tissu associatif qui fait aussi, je pense, la force de cette ville en hiver. C'est une fois de plus, c'est pas des associations médiatiques dont on voit partout dans les journaux, à la radio, mais il y a un énorme travail qui est fait. Et, on a souvent l'impression que c'est le désert l'hiver parce qu'il y a une suractivité l'été. Et non, moi, nous faisons des concerts toute l'année et c'est vrai que nous arrêtons l'été pour faire un festival au Théâtre Antique. Mais... C'est une image, c'est marrant, beaucoup de personnes ont cette image, je pense qu'elle est fausse.
Est-ce que vous-même, vous êtes en lien avec ces grands événements, avec les RIP ou bien avec les Sud-Arles, par exemple, dont la programmation ressemble un petit peu à la vôtre?
Ressemble, non, c'est quand même vraiment axé sur la world, sur la musique traditionnelle. Nous, c'est vrai qu'on a une programmation très, très large et éclectique, mais avec les rencontres photos, par exemple, nous organisons le soir, après, nous faisons les afters avec des projections de photographes qui ne sont pas retenus pendant les projections. Il y a aussi, avec Supinfocom, je vous parlais tout à l'heure, où on fait des projections, des soirées. On est très, très liés avec le tissu associatif et culturel.
Votre rôle n'est pas uniquement un rôle de programmation, vous avez aussi pour fonction d'accueillir des émergences, de soutenir des projets de création. Alors, est-ce que le terreau arlésien est fertile en matière de création?
Oui, fertile. Pas autant que Marseille, évidemment, mais il se passe beaucoup de choses. On a notre groupe qui sort, qui s'appelle Fatue 2, qui fait partie de la mouvance de Massilia, de Dupin, de tout ce courant-là. Il y a aussi d'autres groupes, dont un qui vient de signer chez Harmonia Mundi, qui s'appelle Gérard et les Stars, dans le ska. On a du rock avec des jeunes groupes qu'on vient de découvrir, avec les Starliner, donc... Le papa est autour de la table, il pourra peut-être vous en parler après. Voilà, on a eu une soirée avec MySpace il n'y a pas très longtemps, et là on s'est aperçu que des tas de groupes, en électro, en rock, il se passe pas mal de choses, mais c'est discret. Je pense que c'est une ville discrète, Arles, et on a l'impression que tout se fait au rythme de cette ville.
Vous évoquiez tout à l'heure à demi-mot les difficultés que rencontrent nombre d'établissements comparables aux vôtres. Est-ce que ce lieu, le cargo de nuit, rencontre parfois des difficultés justement pour pérenniser son action? Comment est-ce que ce lieu est soutenu par les différentes collectivités en Arles et autour?
J'aurais tendance à dire que ce lieu ne connaît que des problèmes, mais c'est le propre de fonctionnement de ces salles-là. Nous sommes plus que soutenus par la ville, parce que c'est une volonté déjà d'une ville d'avoir une salle comme ça. Si il n'y a pas de volonté, les salles meurent les unes après les autres quand le maire estime que ça fait trop de bruit, que ça crée des nuisances. Là, vous pouvez le voir, si vous faites un petit tour, ce mois-ci, il y a deux salles qui ont fermé, une à Gap, je crois, et une à Angers, et ça ne s'arrête pas. Et nous sommes aussi très 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 soutenu par le conseil général et le conseil régional et la DRAC, parce que nous sommes labellisés scène de musique actuelle. Donc mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, c'est pas facile. On a la chance aussi de la salle la plus proche est Salon et l'usine à Istres. Je crois qu'il y en a une qui va s'ouvrir bientôt à Nîmes, et je crois que le travail, la programmation et tout ce qu'on a apporté depuis des années font que maintenant le public nous fait confiance. Et puis surtout, il y a eu une manière de fonctionner. Il y a quelques années, les gens venaient découvrir un spectacle. Aujourd'hui, avec la toile, plus personne ne découvre. On va d'abord voir ce qui se passe, si ça nous intéresse, on vient. Donc encore plus aujourd'hui, il faut qu'on apporte des choses de qualité et un peu tout le temps avant les autres.
Un de nos grands thèmes de réflexion partagés avec le Ravi, avec qui nous avons réalisé ce dossier sur la ville d'Arles, c'est de se demander comment est-ce que la culture pourrait devenir un nouveau poumon économique pour cette ville. La culture comme renouveau économique de la ville, vous-même, vous y croyez ?
Bah oui, j'y crois. De toute façon, comme vous disiez tout à l'heure, moi je vois cette ville est en pleine mutation, mais pas depuis quelques mois, depuis pas mal de temps. Le poumon économique, on pourrait faire une culturelle, est assez vaste. Si on parle d'Harmonia Mundi, d'Actes Sud, des rencontres photos, des Sud, de Supinfocom, je pense que vraiment, il se passe énormément de choses dans cette ville. Je ne sais pas les projets, on vous en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des projets encore plus importants. Il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses et dans tous les secteurs. Je crois, d'après ce que j'avais lu une fois, on a autant de lits d'hôtels que Montpellier. C'est assez significatif. Il n'y a pas que l'attrait touristique qui fait cela.
Merci Jean-Marc Payol. Je crois que ce soir, vous attendez d'ailleurs un groupe Apparat et que vous êtes attendu. Donc je vous libère de ce plateau en vous remerciant d'y avoir participé.
C'est moi, merci beaucoup.
On va continuer à parler de l'avenir culturel à Arles et notamment à propos de la réhabilitation des friches ferroviaires et du projet de Grande Halle. Mais en préambule, on va écouter un extrait de l'émission réalisée par Marc Foiry que vous allez pouvoir écouter demain à 18h sur les 3-8. Marc, tu nous présentes ce sujet ?
Voilà, donc c'est un extrait de l'émission qui sera diffusée demain. Il y a une autre émission qui sera diffusée dimanche. Les deux émissions... Le fil rouge, c'est autour de cette histoire de est-ce que la culture est un poumon économique pour la ville d'Arles. Alors bon, on s'est appuyé sur un élément d'actualité qui était l'inauguration d'une grande halle le 5 octobre dernier sur le site des anciens ateliers SNCF, qui est un site de 10 hectares, qui est très près du centre-ville et qui est réinvesti peu à peu par la ville. Donc c'est un équipement tout à fait considérable, 5000 m² au sol, un écran absolument faramineux qui prend la moitié du toit de la grande halle, 2800 m². Et comme on est dans un contexte aussi où il y a eu l'île 2004, on parle beaucoup de culture et d'économie, de culture et de commerce, et cette grande halle est annoncée sous la vocation culture et commerce. On s'est dit que on allait travailler sur ce sujet-là à l'occasion de ce dossier spécial avec le Ravi sur Arles. Et donc parmi les gens qu'on a rencontrés, on a réalisé pas mal d'interviews. Parmi les gens, il y a Bernard Coutaz, qui est le directeur d'Harmonia Mundi, donc une société d'édition phonographique très connue. Ils sont venus il y a 20 ans avec 30 salariés sur Arles. Maintenant, ils sont à 138. Il annonce à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est considérable. Et à lui, comme à d'autres, on lui a demandé quel était son regard sur cette grande halle qui vient d'apparaître dans le paysage arlésien, et voilà un extrait de sa réponse.
D'abord, la rénovation de la grande halle, je trouve ça magnifique. Il y a eu une inauguration en feu d'artifice qui était aussi très beau, enfin, et en fanfare, c'est très bien. Mais il me semble qu'on est là dans un cas de figure, hélas, général aujourd'hui en France, c'est que dans les activités, surtout culturelles d'ailleurs, on fait passer le contenant avant le contenu. Moi, je le déplore dans le cadre de notre activité éditoriale et je réagis auprès des cadres de la société en leur disant, mon Dieu, arrêtez de mettre en premier le contenant, c'est-à-dire la facture de la pochette, la promotion, le marketing, et vous oubliez de parler de la musique. Est-ce qu'elle est intéressante et comment ça chante ? Comment ça joue ? C'est général d'ailleurs. Le contenant passe avant le contenu. Et quand vous parlez de la grande halle, j'ai l'impression, mais je ne suis pas expert, que là aussi on a fait le contenant, mais le contenu, je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans.
Philippe Pouliquin, je le rappelle, vous êtes directeur adjoint à l'aménagement du territoire. On vient d'entendre dans cette interview de Monsieur Coutaz le terme « contenant sans contenu » pour qualifier ce projet d'aménagement. Que souhaitez-vous y répondre ?
Bien, ben, bonsoir à tous d'abord. Ben, effectivement, ben, je viens de voir M. Koutaz à l'instant et on a parlé d'un projet de contenu avec lui justement sur le site des ateliers SNCF puisqu'on vient de lancer ensemble avec la ville d'Arles et l'ensemble du pôle Prides sur la filière du livre, une faisabilité sur une maison des éditeurs sur les ateliers SNCF. Donc vous voyez que le contenu se marie avec le contenant et de par mes fonctions, effectivement, donc je suis directeur du département développement qui intègre l'aménagement et la culture. Et ma préoccupation depuis plusieurs années, c'est effectivement de faire que le culturel ne soit pas que de l'événementiel, mais qu'on transforme cette formidable imaginaire et potentialité qu'offre la culture sur Arles en formidable moteur d'attraction et d'attractivité économique sur la ville. Et c'est ce qu'on est, je crois, en train de faire dans le cadre d'un projet urbain d'ensemble. Donc les ateliers SNCF, c'est effectivement l'élément emblématique aujourd'hui qui est en train de se transformer, puisque ce site aujourd'hui est aménagé sur 3 hectares. Il reste 7 hectares à aménager. On est dans un vrai projet de régénération urbaine, un mini Euro-Méditerranée, entre guillemets. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on travaille sur l'ensemble de la ville, sur l'ensemble des aspects qui touche au développement en articulant ces logiques économiques et culturelles. C'est aussi bien un projet urbain le long du Rhône, c'est aussi bien le long des boulevards. Ça a commencé par quelques années en rouvrant une friche qui était fermée, qui était le théâtre municipal, qui a été rouvert en 2001 et qui était quand même fermé. Et on a peu à peu, on essaie de réapproprier des lieux patrimoniaux parce qu'on est une ville patrimoine mondial de l'humanité avec... Alors vous parliez de l'endettement de la ville au tout début de votre intervention, c'était même vos premiers mots. Je tenais à rappeler que l'endettement, on en sort. On est en dessous de la moyenne de certaines villes comme Marseille, par exemple, aujourd'hui, qui est votre ville qui vous héberge, je crois. Donc on est sur quand même un mouvement de fond. La ville a basculé d'image. C'est vrai qu'on était dans une logique de conservation du patrimoine naturel et du patrimoine historique, et on transforme cette logique de conservation en une logique de valorisation. En là où on ne peut pas intervenir dans la conservation, et ben il faut trouver des usages, des fonctions. Ça va être pour des entreprises, ça va être pour des fonctions culturelles, ça va être pour des associations, et on essaie de développer un projet autour de ça. Et je crois que aujourd'hui on a les fruits de ce travail avec effectivement un vrai développement et un changement d'image de la ville.
Michel Guéraud.
Est-ce que Arles ne se raconte pas quand même une belle histoire? On est quand même très très loin d'un Eldorado culturel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de monoculture économique? Bon, ça c'est un premier aspect. Et puis aussi, il y a eu quand même un échec, à savoir Arles a candidaté pour le label de pôle de compétitivité dédié au secteur culturel, hein, qui devait être quelque chose d'assez unique en France. Et puis ça n'a pas été le cas, il n'a pas obtenu ce label, donc...
Alors première chose, bien évidemment, Arles est une ville moyenne, il ne faut pas se leurrer, on est une ville avec une agglomération de 35 000 habitants. C'est la plus grande commune de France, 76 000 hectares, Didier pourra revenir là-dessus. Mais effectivement, il serait stupide de se focaliser sur une thématique sur le territoire. Donc notre ville, elle est plurielle. Elle a un passé ouvrier et c'est ce qui fait aujourd'hui encore la force de ce territoire, avec de l'emploi qui se crée dans le domaine industriel encore. Il faut savoir que l'emploi industriel baisse en France, mais sur Arles, l'emploi industriel a progressé malgré les fermetures. Et je suis avec M. Bonuti, on a travaillé sur la reconversion du site Lustucru et on y travaille tous les jours. Mais l'emploi industriel et de PME progressent. Parce qu'on a tout un ensemble de tissus, de savoir-faire dans la chaudronnerie, dans différents métiers. On a juste tout près d'ici, vous avez aussi les papeteries Étienne, espace qu'on a préservé pendant plusieurs années, où il y a eu 30 millions d'euros d'investissement. Et on a une usine de cogénération, ce qui fait qu'on est aujourd'hui autonome en énergie sur Arles grâce à ce process industriel. Donc c'est l'ensemble des filières, c'est bien sûr le tourisme avec plus de 2000 emplois dans le tourisme. C'est le commerce qu'on essaie d'équilibrer en maintenant. Maintenant, une activité sur le centre-ville et sur la périphérie sont tombées dans la périurbanisation et un urbanisme tentaculaire. Donc on est sur tous les secteurs. Mais effectivement, de lier le culturel dans sa dynamique événementielle à du culturel de contenu, comme disait M. Coutaz, c'est notre priorité. On travaille sur une maison des éditeurs. Et alors, effectivement, on n'a pas eu le label aujourd'hui national. Vous savez que l'État n'a plus beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui, autoriser des nouveaux pôles de compétitivité, ça pose des problèmes. Je sais qu'on était jusqu'au dernier moment dans les bons tuyaux. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que les acteurs travaillent ensemble. Quand on met autour de la table des gens de la chambre de commerce, des gens du culturel, des associations, des syndicats, tout ça, ça crée du réseau, ça crée du développement, de la valeur ajoutée. C'est ça qu'on veut. Après, viendra le label. S'il faut, on a un label pour l'instant régional. L'important, c'est que les gens se rencontrent, travaillent ensemble, innovent. Et c'est ce qu'on fait via ce pôle de compétitivité qui en a la saveur, le contenu, même s'il n'a pas l'appellation contrôlée. Enfin, c'est pas grave, on a plein d'appellations contrôlées sur notre territoire. Donc, voilà. Donc, je voulais insister sur le fait qu'on était donc un pôle diversifié et qu'on était dans une dynamique plurielle.
Je donne juste dans une toute petite seconde la parole à Jean-François Pouplein. Le temps de demander à Monsieur Pouliquen et de revenir un petit peu sur ce projet d'aménagement de la friche ferroviaire. Un projet qui, comme vous l'avez évoqué, rassemble à la fois les éléments culturels et puis d'autres éléments, logement, commerce, entreprise, pour un ensemble donc hybride. Comment est-ce que concrètement ça s'articule, cette hybridation? Est-ce qu'il existe des modèles en la matière?
Le modèle, c'est la ville. Donc, il faut arriver à travailler sur un morceau de ville à part entière. Donc, la ville, ça commence par les flux. Donc, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on va mettre comme flux. Et il faut travailler à partir de ça. Et puis, bien sûr, autour de ça, notre objectif, c'est que ça soit à la fois un lieu festif, populaire. Effectivement, il y a eu l'inauguration l'autre jour du site. Bon, c'était extraordinaire de voir 15 000 Arlésiens, des personnes qu'on ne voit jamais ou rarement dans des manifestations culturelles, qui voulaient retrouver ce lieu. Et quand on a vu que cette grande place devant cette grande halle était noire de monde, on s'est dit, mais cette place, c'est un lieu magnifique pour faire un ensemble de manifestations populaires de toutes sortes, permettre aux familles de se retrouver là avec des quartiers tout proches qui sont en rénovation urbaine. Donc, voilà, on est sur cette dimension d'articuler un projet qui soit un morceau de ville à part entière pour permettre aux Arlésiens de s'y retrouver, de consommer, de découvrir, de consommer intelligemment, je dirais, d'avoir une dimension, de pouvoir à l'occasion d'une découverte, de s'amuser sur le site, d'aller manger, de pouvoir aussi aller peut-être visiter, y compris en hiver, une exposition, rencontrer d'autres parcours.
Jean-François Pouplein.
Je voulais juste savoir quelle liberté avait la ville sur ce projet. Est-ce qu'elle le menait vraiment, sachant que c'était la région qui le finançait en grande partie?
On est en complet partenariat avec la région, bien évidemment, sur ce projet. Et avec la région, on travaille avec des partenaires institutionnels comme la Chambre de commerce et des partenaires aussi privés pour voir globalement comment on peut aménager, financer l'aménagement global du site. C'est un site qui représente quand même... Alors, aujourd'hui, on a réalisé 3 hectares, il nous reste 8 hectares, 80 000 mètres carrés à aménager. Donc, vous imaginez, en termes d'investissement, globalement, c'est un investissement de 200 millions d'euros sur l'ensemble du site. Donc, ça sera un partenariat public et privé pour aménager l'ensemble du site. Donc, on a passé un protocole d'accord avec la région. Donc, la ville devient aménageur du site. La région va délibérer pour nous transférer le foncier, sachant que la région garde à ce jour la propriété de la grande halle, qu'on travaille avec la région sur le montage en termes de gestion de cette grande halle, avec donc différents scénarios qu'on va étudier dans le cadre d'études de programmation complémentaire qu'on est en train de lancer. Et donc ça se fait de manière très, très sereine. Et effectivement, l'objectif, c'est de mener sérieusement les choses pour qu'on ait un espace qui fonctionne. Il faut peut-être, vu l'enjeu patrimonial du site, il faut peut-être mieux se donner un peu plus de temps pour bien gérer les choses et faire vraiment quelque chose de qualité, que de brader le site Puisqu'il y a eu toujours des velléités de venir occuper ce site au coup par coup, de le réinvestir ponctuellement. Il faut vraiment qu'on ait un aménagement cohérent, sachant qu'on a notre première tranche qui a démarré et qui donne déjà une nouvelle image de la ville avec Supinfocom, un hôtel d'entreprise et peut-être une maison d'éditeur et une petite pépinière pour les entreprises autour du numérique et de l'image. Alors c'est vrai qu'on est tous impatients d'être dans ce lieu en permanence et d'y passer autrement qu'on était quand il y a une exposition des RIP. Mais il faut laisser le temps aux choses. La régénération urbaine sur des sites aussi complexes, ça met du temps. C'est pas évident. Vous connaissez aussi hein, Romed, vous voyez l'échelle de cette opération. Donc tout ne se voit pas en un jour. Et Rome ne s'est pas bâti en un jour.
Vous le citiez à l'instant, des écoles s'installent en Arles, sont déjà installées et vont sans doute s'installer sur ces nouveaux périmètres en cours d'aménagement. Des écoles de photographie, une école d'image numérique. Des écoles, cela veut dire des étudiants, a priori. Est-ce que la ville est en mesure de répondre à leurs demandes et à leurs attentes en termes de logement, en termes d'équipement ?
Bon, et là, je suis un vieil étudiant maintenant, mais... Alors certainement les étudiants vous diront que la vie étudiante et les animations sont peut-être encore insuffisantes. Bon, moi je vois l'évolution, je suis sur la ville depuis une douzaine d'années. Bon, on parlait tout à l'heure d'inauguration de Cargo de Nuit. Bon, c'était le premier dossier sur lequel j'ai travaillé pour essayer de... Donc je vois l'évolution de la ville, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 700 étudiants. Vous allez me dire c'est ridicule par rapport à Marseille. On est passé à 1300. On a essayé de répondre à leurs besoins en offrant des services de qualité avec des résidences étudiants. On a une politique en centre ancien pour permettre aux étudiants de vivre en centre-ville. On a quand même plus de 500 associations dont certaines vraiment focalisées sur les partenariats avec les étudiants, donc avec des manifestations qui se font y compris en hiver. Donc bien sûr les étudiants cherchent aussi un lieu où ils pourraient peut-être avoir leur petit lieu à eux pour se retrouver, etc. Donc sur les ateliers toujours, on va réfléchir avec l'IUT, Supinfocom pour réhabiliter ce qu'on appelle la maison du directeur en espace où on articulerait formation et espace de vie étudiant, bon, qui permettrait de faire un complément. Mais je crois que globalement aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on développe encore les animations de soir. Bon, les jeunes, ils viennent à Cargo. Il n'y a peut-être pas encore assez d'espace festif au quotidien, mais je pense qu'on pourra atteindre bientôt un seuil. Enfin, a priori, ils sont quand même très heureux d'être là, plutôt que perdus dans un campus à Château-Gombert, je crois.
Marc Voiry l'a évoqué tout à l'heure, une première étape d'aménagement de cette friche ferroviaire a consisté dans l'inauguration de la grande halle, c'était en octobre. La suite, c'est quand ? Quelle va être la suite de cet aménagement ? Est-ce que par exemple, il faut attendre la fin de ce projet, peut-être à l'horizon de 2013 ? Je crois que Arles fait partie des villes qui soutiennent un ensemble de candidatures, dont Marseille à la tête, hein, pour être capitale culturelle de l'Europe. Est-ce que c'est une échéance ?
Alors, 2013, effectivement, ça correspond quasiment au planning de mise en œuvre de la deuxième partie sur les ateliers. Récemment, il y a une conférence de presse à Marseille où M. Gaudin et Bernard Lartager ont annoncé un peu les orientations de la candidature de Marseille en partenariat avec toutes les villes et grandes villes de la Méditerranée. Donc ça, je trouve que c'est un challenge assez sympathique par rapport à la dimension euro-méditerranéenne qu'il nous faut développer. Donc c'est clair qu'ils ont cité le site des ateliers SNCF comme un élément majeur d'animation au même titre que les docks à Marseille comme un point d'angle. Mais je crois que l'objet de cette candidature, c'est pas de fixer un objectif à 2013 avec de l'événement, mais c'est de travailler sur du contenu avec des activités en profondeur. C'est ce qu'on fait nous. Alors on n'a pas parlé du culturel, mais peu du patrimoine. Moi je voulais parler de toutes les actions au quotidien qui sont menées avec tous les services éducatifs, les services éducatifs des musées, les services éducatifs du patrimoine, avec les partenaires de l'environnement, pour faire que la culture et toute la sensibilisation des publics accompagnent cette démarche. Cette démarche de Marseille 2013, c'est aussi travailler en profondeur pour sensibiliser les publics et faire justement qu'on ne soit pas que dans du contenant, mais permettre à chacun d'accéder à la culture au sens du beau, quoi. Et voilà.
On continue dans quelques instants ce tour d'horizon, mais en attendant, on fait une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques secondes. Direct sur les 3-8, nous sommes au Cargo de Nuit à Arles, où nous crêchons en compagnie du Ravi. Arles est une ville éminemment patrimoniale, on l'a dit et on l'a répété, mais le patrimoine, ça n'est pas uniquement les vieilles pierres, c'est aussi le patrimoine naturel. Françoise Léger, directrice artistique d'Ilotopie et du festival Les Environnements, répond aux questions d'Anouk Bâtard. On écoute ce sujet et on en parle juste après.
Des environnements se jouent essentiellement sur la commune d'Arles. On plaisante, on dit qu'on fait de la décentralisation culturelle, parce qu'en fait, la commune d'Arles, alors il y a un très joli centre-ville historique, et on a un peu l'impression que la culture arlésienne est prisonnière de ses vieilles pierres et de son passé, et la culture a beaucoup de mal à se diffuser au-delà de ce petit centre-ville historique. Alors évidemment, nous on s'est emparé de cette question parce que ça ne nous intéresse ni d'être enfermés dans des théâtres, ni même dans des amphithéâtres. Donc je crois que comme il y avait, enfin toutes les initiatives en tout cas artistiques et culturelles sont basées au centre-ville, on s'est dit on va s'intéresser au territoire. Le fait que cette Camargue considérée comme un superbe milieu naturel est en réalité un milieu complètement artificiel puisque tout a été créé par l'homme. Il n'y a pas de dualité ni de scission entre la nature et la culture. Évidemment que c'est peut-être le lien fondamental qu'il faut retrouver entre l'homme et son environnement, mais l'homme n'est pas hors de la nature.
Mais on se rend compte, c'est vrai que la ville d'Arles et les structures culturelles basées à Arles investissent beaucoup le patrimoine historique. Et donc la ville essaye de rendre vivants ces lieux antiques.
C'est sûr qu'il y a des questions aussi financières forcément dessus. C'est une ville qui vit du tourisme. Donc il y a une facilité aussi à concentrer l'offre au centre-ville. Ensuite, les questions de transport ne sont pas simples non plus sur un vaste territoire comme ça. Donc il y a évidemment des choses à développer sur le territoire. Ce qui nous a intéressé, en tous les cas, dans la création de cette proposition environnement, c'est d'aller chercher des gens d'autres secteurs, pas du tout du milieu culturel. Donc ça a été des directeurs de sites naturels, des directeurs de conservatoires du littoral, une association qui s'occupe d'éducation à l'environnement, un labo du CNRS, qu'est-ce qu'on a comme partenaire encore, le Parc de Camargue quand il existe. Et je crois que c'est ça qui fait la richesse de la proposition, c'est ce mélange entre des points de vue d'artistes, des points de vue de scientifiques ou des points de vue de gestionnaires de milieux naturels. Il y a un champ effectivement à la fois beaucoup plus novateur et sûrement aussi beaucoup plus pertinent, parce que j'ai le sentiment que le territoire maintenant ne se réfléchit pas uniquement en termes de centre-ville. Ça fait longtemps que la France réfléchit des problèmes d'aménagement du territoire, et là c'est bien de ça dont il s'agit. Alors pas seulement en termes d'une offre culturelle répartie sur l'ensemble du territoire, comme disent certains, parce que c'est vrai qu'il y a tellement peu d'habitants sur la partie Camargue qu'on peut pas réfléchir en termes d'offre culturelle, mais je pense en termes de pertinence de projet, en termes aussi de finalement peut-être de pas rester coincé dans cette identité romaine, mais d'être sur une identité peut-être plus contemporaine ou plus actuelle. Il y a des chercheurs, il y a un labo du CNRS qui est implanté à Arles. Donc je crois que des acteurs artistiques dans ce contexte-là, c'est intéressant parce que ça révèle toutes sortes de choses sans être de parti pris.
On écoutait Françoise Léger, interrogée par Anouk Bâtard. Didier Olivry, je le rappelle, vous êtes directeur du parc naturel régional de Camargue. Alors on a entendu des propos de Françoise Léger qui disait « le parc, quand il existe, alors il existe ?» Oui, point d'interrogation.
Oui, bien entendu, il a toujours existé. Il a des hauts et des bas, mais en fait, depuis 1970, c'est l'un même des plus vieux parcs de France, hein, donc un premier du Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc un des plus vieux parcs de France, et qui connaît effectivement des aléas, sans doute liés à son histoire, et peut-être aussi au fait qu'il soit très ancien. Donc il a été créé dans un contexte qui a évolué, et bien entendu, accompagner cette évolution donc a été un peu difficile, puisque notamment, il avait été créé dans un contexte très rural, avec une appropriation très forte des propriétaires. Et puis progressivement, c'est un peu le thème qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire progressivement ces questions de protection de la nature comme de culture s'engagent également sur le champ de l'environnement, des territoires ruraux qui deviennent de fait périurbains. Et maintenant, sur ces questions majeures d'environnement, on le voit ces derniers temps, tout le monde a voix au chapitre et donc essaye de s'impliquer. Et donc, on ne pouvait plus faire en sorte, outre les aspects juridiques, financiers, que seuls les agriculteurs soient concernés par les questions de protection de la nature.
Un devenir du parc naturel qui va sûrement connaître quelques petits changements ou évolutions dans un proche avenir, entre autres parce qu'il est question que le territoire de la commune d'Arles se scinde bientôt. Les Salins vont bientôt devenir une commune autonome. Quelle incidence est-ce que ça va avoir sur le développement et l'existence du parc naturel ?
Alors, la question n'est pas tranchée, puisque encore cette semaine, j'interrogeais le ministère de l'Environnement. C'est la première fois que ça se passe. Ils ne savaient pas comment faire. Donc, puisqu'on est un territoire qui est classé dans un parc, et à l'intérieur même du parc, une commune devient deux. Donc, effectivement, ça, c'est pas prévu dans les textes. Donc, ceci dit, donc sur les enjeux restent les enjeux, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, nous, c'est vrai que Salins concentre un certain nombre d'enjeux particuliers, donc du fait d'une mutation industrielle majeure, hein, donc une activité salinière qui baisse, des enjeux aussi sur le développement touristique, hein, des secteurs de plages. C'est vrai qu'on a deux plages majeures à Arles, donc Piémançon et Bauduc, dont la fréquentation n'est pas bien réglée pour l'instant, puisqu'elle se fait en marge de la réglementation nationale. On a toujours un problème aussi des traversées du Rhône dans ce secteur. Donc c'est vrai que pour ce qui concerne la protection de la nature, c'est un axe fort en Camargue. Hein, et donc, effectivement, déjà, ça faisait l'objet de toutes les attentions du parc naturel régional, puisque on voit bien que c'est un secteur en mutation. Et là, se posent effectivement les questions majeures de protection de la nature, de développement économique. Et bien entendu, donc, le parc les pose avec, bien sûr, un axe réglementaire, mais qui n'est pas le seul. Et il faut travailler avec les populations pour savoir comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend le modèle de la Grande Motte ou est-ce qu'on reste sur des axes forts de protection de la nature ? Mais à ce moment-là, est-ce que les gens peuvent vivre? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose ensemble. Mais c'est vrai aussi qu'on a des engagements nationaux et internationaux. C'est une réserve mondiale de biosphère, c'est une zone Ramsar pour la protection des zones humides. Donc on a...
Ramsar, c'est-à-dire?
Oui, Ramsar, c'est la ville en Iran donc, où s'est passée cette convention internationale où la France, avec tous les pays du monde, se sont engagés à protéger les zones humides qui sont... un des milieux naturels les plus menacés partout dans le monde. Et donc cette convention a été ratifiée par la France. Et la France est engagée à préserver et à maintenir l'intégrité de toutes ces zones humides.
Jean-François ?
Vous parliez de développement du parc naturel et en particulier sur le territoire des Salins. Donc un développement qui pourrait être touristique, mais qui devra se faire aussi, en tout cas pour l'instant, avec une entreprise privée, le groupe Salin, qui baisse son activité sur sa linière et qui, de ses propres mots, dit qu'elle ne va pas faire de philanthropie. Donc comment gérer un petit peu cette relation avec ce développement, ce co-développement avec du privé?
Oui, c'est une difficulté majeure, puisque la plupart de nos partenaires, notamment les agriculteurs, les professionnels du tourisme et tout ça en Camargue, sont totalement convaincus de l'intérêt de la protection de la nature, qui est un axe fort, qui est même l'axe majeur de leur développement économique. C'est quand même l'engagement, y compris les communes, l'ensemble des collectivités, de la région au département, en passant par les communes, de dire que la Camargue donc était un espace protégé et que sur cet enjeu patrimonial, on en faisait un axe de développement. Alors, donc, à partir du moment où en fait ces propos je ne les ai pas entendus comme ça directement, mais où un partenaire ne joue pas le jeu, ça pose effectivement la question majeure de l'axe de développement. Donc c'est à dire que
pour un propriétaire de, je crois que c'est une quinzaine de milliers d'hectares sur l'ensemble du parc naturel.
Tout à fait, mais en fait sur les 15 000 hectares ils ont prévu effectivement, donc le projet c'est de faire un développement touristique limité au droit du village. En tout cas légalement, c'est la seule possibilité qu'il y aurait actuellement. Pour le reste, les espaces naturels, donc ils sont plusieurs, effectivement, milliers d'hectares, ils resteraient naturels, mais avec une possibilité peut-être de découverte. Mais c'est bien ce qui est prévu dans le plan, enfin, que moi, donc, j'ai eu à connaître sur cette question-là.
Michel Guéraud.
Clairement, si la commune des Salins obtenait une reconnaissance de son existence, comme certains le réclament, est-ce que ça poserait des questions, des problèmes pour le parc?
Globalement, donc, vu comme ça, non, puisque donc, on est déjà donc, un parc d'exception, c'est-à-dire que sur 100 000 hectares, on n'a que deux communes, alors que partout ailleurs, dans les autres parcs naturels régionaux de France, sur 100 000 hectares, on a environ 40 communes en moyenne. Donc c'est la moyenne française. Donc c'est vrai qu'on a les deux plus grandes communes de France, donc c'est une particularité. Faire en sorte que tous les hameaux de Arles soient des communes ou des hameaux, du point de vue de la protection de la nature et de l'action d'un parc naturel régional, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est pas ça l'axe majeur. Ce qui est plus fondamental pour nous, c'est qu'est-ce qu'on y fait. Donc c'est plutôt le projet. Donc c'est vrai que ce qui nous inquiète, en quelque sorte, ce sont plutôt les enjeux de territoire qu'il y a ou qu'il y aurait. Donc dans cette commune particulière, et la capacité qu'elle aurait ou qu'elle n'aurait pas à y faire face. Donc c'est vrai que donc il faut voir si cette commune aurait le moyen de gérer ces gros enjeux qui sont majeurs, puisque on peut considérer que la totalité du territoire de cette commune serait en mutation. Et donc on arrive avec un cas de figure exceptionnel, c'est-à-dire où on a une commune qui se crée, 90% du territoire appartient à un seul propriétaire privé qui en plus est en train de changer totalement son activité. Donc c'est vrai que ça fait des cas donc jusqu'à maintenant tout à fait méconnus au niveau national en tout cas.
Qui dit comment ça peut gérer et quelle alternative, parce que je vous citais le directeur du patrimoine du groupe Salin qui disait clairement qu'il ferait pas de philanthropie et dont on a l'impression que si le groupe gagne pas d'argent, il est capable de quitter le territoire. Et comment gérer à terme ce genre de situation? On a l'impression, encore une fois, que ce soit à travers le groupe ou à travers la commune et cette volonté d'indépendance, c'est encore des intérêts privés qui ont l'avenir du parc entre leurs mains.
Oui. Alors, Ceci dit, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc, c'est quand même le projet majeur de tout le parc naturel régional. C'est-à-dire qu'on est, nous, dans un cadre particulier où, sur les 100 000 hectares, on a la prétention de dire que c'est le développement économique qui protège la nature. Donc, on a besoin de tous les partenaires économiques. On a besoin que les partenaires économiques aussi vivent de leur activité. Donc, un parc naturel régional, c'est pas une réserve. Hein. C'est-à-dire que nous, on accompagne quotidiennement les agriculteurs, les professionnels du tourisme, les industriels, pour qu'ils puissent, au contraire, vivre et vivre de leur activité, normalement, dans un parc naturel régional. Jusqu'à maintenant, on a réussi, depuis maintenant près de 40 ans, à faire en sorte que non seulement l'activité économique donc existe, mais en plus se développe, tout en protégeant la nature. On a 50% de l'espace camarguais qui est totalement protégé ou totalement naturel. On est un des rares lieux de ce type dans l'Europe actuelle à avoir préservé 100 000 hectares de zones humides, d'avoir l'ensemble des espèces animales et végétales qui se sont maintenues, tout en ayant des activités économiques. L'activité salinière et même son évolution vers le tourisme ne peut se faire que si ce patrimoine existe. Donc leur intérêt, et ça par contre, le groupe Salin le sait, leur intérêt c'est bien entendu de faire un développement ou une mutation vers une valorisation touristique qui maintienne le patrimoine naturel. Sinon ils tuent la poule aux œufs d'or et à Salin, comme toute la Camargue, personne ne viendra plus, il n'y aura plus du tout d'activité. Donc ça par contre, et donc j'ai discuté avec eux, on voit bien que leur projet, ça consiste bien sûr à faire du tourisme durable, hein, c'est-à-dire faire venir des visiteurs qui découvriront la Camargue. Donc on ne peut pas faire en sorte qu'ils vont détruire la Camargue. Hein, donc ils ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis.
Rapidement, Philippe Pouliquin, vous vouliez réagir ?
Oui, simplement, je veux dire, ce qui me semble noble au sens politique, c'est de bâtir des projets collectifs. Donc le plus important, c'est pas de noyer le débat sur des découpages administratifs, mais c'est vraiment de réfléchir sur les enjeux de fond et les solutions avec l'ensemble des acteurs pour travailler sur une gestion durable du site. Alors à un moment donné, il faut prendre en compte les enjeux et les problèmes de chacun et se mettre autour de la table pour trouver des solutions pérennes. Parce que passer d'une logique de conservation du espace à une logique de gestion et de développement, je pense que c'est ça le débat de fond, et de bien se poser ensuite la question des bons outils institutionnels pour faire tout ça, et pas de noyer le poisson en parlant de problèmes administratifs avant d'aborder les questions de fond. Je crois que c'est ça qu'il faut bien mesurer par rapport aux enjeux du parc. Donc je crois que maintenant, il y a les acteurs économiques, les acteurs culturels, les acteurs sociaux, ils sont capables de se mettre autour de la table. Les Salins du Midi sont tout à fait, je pense, aussi ouverts pour discuter sur des solutions. Je crois que le schéma classique du vilain propriétaire foncier qui veut vendre son patrimoine, je pense qu'on a les outils aujourd'hui pour empêcher cela, et c'est pas du tout l'état d'esprit, je crois. Donc on doit pouvoir trouver des solutions, à condition que ce travail se fasse effectivement dans une dynamique qui mobilise l'ensemble des acteurs de la Camargue. C'est vraiment ça. Et surtout, ne stérilisons pas le débat avec des problèmes de découpage ou de périmètre, parce que rien n'est pire que cela.
Parmi les acteurs majeurs qui interviennent sur ce périmètre, il en est un, évidemment, c'est le maire de cette commune, Monsieur Hervé Schiavetti. Michel et Jean-François, je crois que vous l'avez rencontré, Hervé Schiavetti, qui est, je le rappelle, membre du Parti communiste, c'est ça. Comment est-ce que la ville s'implique dans ces grands projets, à propos du parc, par exemple ?
Bon, mais comme dans toutes les communes de la taille d'Arles, le maire, c'est quand même un personnage très, très important. Il est à plus d'un titre symbolique et singulier, dans la mesure où on a quand même affaire à un maire communiste, comme tu le rappelais, ce qui finalement devient quelque chose d'assez rare, hein, en particulier dans les villes de plus de 50 000 habitants en France. En dehors de la région parisienne, il n'y en a que 3 qui sont dans ce cas de figure. Et puis si on regarde effectivement entre Perpignan et Menton, on peut même dire que c'est un des rares maire de gauche à la tête d'une ville de cette taille. Autre paradoxe de cet élu, c'est que tout en étant communiste, il arrive finalement finalement la première critique que ses amis et ses ennemis politiques lui font, c'est d'être trop consensuel, c'est-à-dire qu'il il a été élu en 2001 sur un coup de poker puisqu'il s'est imposé en gagnant une primaire à gauche comme maire. La situation sera très différente évidemment en mars prochain où là ça sera le maire sortant, mais voilà. Donc
est-ce qu'il est en bonne place pour être réélu?
Honnêtement, là aussi, il semblerait que la situation comme ça soit quand même très 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 ouverte pour lui, en particulier parce que sur sa droite, la division règne avec un candidat qui va être investi par l'UMP incessamment sous peu, et puis une liste dissidente à minima.
Peut-être vous qui l'avez rencontré, Jean-François, et toi, Michel, une question sur comment s'articule le travail du maire d'Arles avec Michel Vauzelle, président de la région, mais qui est très très proche évidemment de cette commune. Comment est-ce que ça s'articule?
D'après nos interlocuteurs, il y a quand même une présence très forte de Michel Vauzelle, mais aussi du département de Jean-Noël Guérini dans le financement des infrastructures, que ce soit à travers le parc naturel régional, à travers la grande halle, comme on l'a rappelé, à travers le financement du musée des Arts antiques, à travers un certain nombre, sans parler des subventions au budget directement de la commune pendant un certain nombre d'années, qui ont été soulevées par la chambre, la cour régionale des comptes, enfin la chambre régionale des comptes de PACA, et qui s'est arrêtée depuis l'année dernière par ces biais-là. Donc Michel Vauzelle est de toute façon excusez-moi, toujours très présent à Arles, et d'autant plus qu'il est député du territoire et qu'il y a un intérêt clair.
Un avenir politique dans un contexte trouble, dans un contexte troublé de mutations et de crises, on en a évoqué quelques-unes, mais une crise majeure a secoué la ville, c'était en 2005 et c'était la fermeture de l'usine Lustucru. On a avec nous Serge Bonuti qui est responsable syndical, le syndicat CGT, et qui va peut-être nous rappeler les tenants et les aboutissants de cette fermeture. Le début de la fin, c'était quoi? C'était les inondations de 2003?
En fait, les inondations leur ont servi de prétexte au groupe Panzani, c'est tout. Effectivement, partant de là, on nous a tenu beaucoup de beaux discours dans toute la période qui a précédé l'annonce officielle de la fermeture, puisqu'elle a été annoncée le 26 mars 2004. Donc ça a généré après tout le contexte de lutte, je ne vais pas rappeler, mais c'est quand même utile de dire qu'aujourd'hui, s'il y a des développements sur la ville, c'est en grande partie, au moins en partie importante, grâce à la lutte des Lustucru, puisqu'il y a eu un fonds de 3,8 millions d'euros qui a été versé par Panzani. Ça, c'est la lutte des Lustucru, plus le fonds Vivendi, qui à l'époque n'était pas spécialement prévu de venir s'investir à Arles, mais qui, compte tenu du contexte de lutte de l'époque, est venu s'investir pour 5 millions d'euros. Donc tout ça, ça a créé un contexte économique. Je tiens à le rappeler parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a un gros problème, c'est que les Lustucru, ils n'ont pas, pour au moins 75 d'entre eux, retrouvé d'emploi stable. Je ne parle pas de ceux qui sont en stage, etc., dont on pourrait aussi parler, et qui n'ont pas d'emploi stable. Mais après, je voudrais aussi rebondir sur la question économique, puisque vous avez abordé tout à l'heure la question du nouveau contexte et culturel qui pourrait être le nouveau poumon économique. C'est bien que la culture se développe, et nous, évidemment, en tant que travailleurs, on y aspire à y être partie prenante. Ceci étant dit, c'est de quels emplois qu'on parle? On ne parle que d'emplois précaires, d'emplois sans statut, qui sont au mieux payés au SMIC. Sauf que c'est pas constitutif d'une économie crédible. Si derrière, il n'y a pas des emplois industriels qui sont préservés, et nous, on avait un projet de scope dont je ne vais pas rappeler le contenu, mais qu'il est quand même intéressant de dire qu'il préservait 90 emplois industriels.
Autrement dit, vous, cette idée que la culture soit le nouveau poumon économique de la ville, vous n'y croyez pas trop?
Il va y avoir effectivement un développement d'emplois avec un certain nombre d'activités qui vont se développer. Mais je répète, c'est de quels emplois dont on parle? C'est d'emplois qui vont être précaires, qui vont être au mieux un CDD. rarement un CDI, tout le temps sans statut. C'est de ça dont on parle et ce n'est pas des emplois qui vont, me semble-t-il, être pérennes. Et moi, je trouve que c'est une situation qui est un peu artificielle en termes d'économie et qui peut très facilement, après, se dégrader. Tout dépendra du contexte dans lequel on va être, bien entendu.
Philippe Pouliquin.
Oui, je suis d'accord avec M. Bonuti sur le fait de dire que la culture, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ça qui va se substituer au tissu économique. Hein, je le rappelais tout à l'heure, l'objectif, c'est de travailler sur l'ensemble des filières. Quand on parle d'économie de la culture, il y a aussi une économie. La culture, c'est aussi tout ce qui est activité, par exemple sur le patrimoine. Aujourd'hui, sur Arles, on a quand même des filières, des métiers de restauration du patrimoine, etc. Et je voulais rappeler, c'est un peu le paradoxe, M. Bonuti, mais qu'aujourd'hui, on travaille dans des parcours d'insertion pour les publics et notamment pour des ex-Lustucru, et on travaille sur les métiers du patrimoine et sur des possibilités de formation et d'intégration de ces publics-là dans ces nouveaux métiers. Donc la culture, c'est pas que l'événement et l'association et les intermittents du spectacle, que je respecte tout à fait aussi, c'est ce qui dépend de subventions. Faudrait pas assimiler l'économie de la culture à ce champ-là, mais bien aussi une économie qui crée de la valeur ajoutée avec des secteurs qui créent vraiment des emplois aussi. Hein. Donc faut utiliser toutes les armes qu'on peut avoir et toutes les potentialités. Le culturel, ça peut être le BTP, ça peut être des emplois. Sur le site du Lustucru, il y a des entreprises autour du BTP qui vont s'implanter. Ces entreprises-là, elles travaillent aussi pour le secteur culturel. Voilà, je vous l'ai dit, les choses ne sont pas noires ou blanches.
Serge Bonuti.
Oui, mais il y a quand même ce problème de fond qui fait que à aujourd'hui, je le redis encore parce que j'y suis assez régulièrement quand même, et je suis, même si c'est d'un peu plus loin, toujours l'affaire Lustucru, parce qu'il y a un certain nombre d'aspects qui sont toujours en cours, notamment juridiques. Mais au-delà de ça, le juridique, il rend pas l'emploi. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des emplois et des emplois stables et correctement rémunérés. Et à ce propos, aujourd'hui, il y a des copains, moi je ne peux pas les appeler autrement que comme ça, qui sont dans des situations dramatiques, mais vraiment dramatiques. Et compte tenu des engagements qui ont été pris à l'époque, donc je vais quand même rappeler que celui qui est aujourd'hui le président de la République était le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, à qui on a pu exposer tout le problème, qui avait les leviers dans les mains pour intervenir auprès de Pandani pour pas qu'il parte. Il ne l'a pas fait. Il a cautionné une démarche de casse d'emplois industriels. Et ça, c'est grave. Alors, bien sûr, il n'a pas la responsabilité première, bien entendu, puisque c'est Pandani qui a pris la décision. Néanmoins, derrière, on ne peut pas tenir deux discours. Politiquement, dire on va tout faire pour garder des emplois et concrètement prendre des décisions qui le cassent. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans cette situation où, il n'a pas été le seul. Le préfet de région aussi tenait un certain nombre de discours. Je voudrais faire le point par rapport au journal Leur Avis et à certaines expressions, notamment d'attaque sur le projet de SCOP. Concernant le projet de SCOP, je trouve pour le moins curieux, pour ne pas dire autre chose, qu'on peut se permettre de tenir ce genre de propos où on dit que c'est l'union locale CGT qui a noyauté, mais que ce n'était pas l'intérêt des salariés. Moi, je trouve que c'est relativement grave. Et je le répète, c'est grave d'autant plus qu'on n'admet pas que ce soit des salariés qui présente un projet de SCOP, qui l'élabore, ils l'ont réfléchi, on l'a soumis régulièrement en Assemblée Générale, on a fait voter sur cette question. Donc je trouve que c'est assez grave qu'on ne tolère pas que ce soit des salariés qui puissent porter un projet de SCOP économique, dont je dis, et j'en terminerai là, que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas démontré, personne ne nous a démontré qu'il ne pouvait pas fonctionner économiquement.
On arrive très bientôt au terme de cette émission. Un dernier échange très rapide, Michel Guéraud.
Justement, à propos de ce projet de SCOP, vous avez parlé d'un certain lâchage de Nicolas Sarkozy, du préfet de région, mais aussi, il y avait des engagements du Conseil général, du Conseil régional, et vous avez été déçu.
C'est-à-dire qu'on aurait, nous, voulu qu'effectivement, notamment quand on a présenté le projet de SCOP, eh bien, on ait En même temps que nos experts à nous, économiques, qui sont des gens très compétents sur ces questions-là, on est aussi des experts du conseil régional, du conseil général ou d'autres qui viennent nous dire si on a fait des bêtises, voilà, ben, là ça ne va pas, etc. Sauf qu'il n'y a personne qui est venu nous le dire. On nous a expliqué après qu'on ne pouvait pas le faire fonctionner sans nous donner aucune argumentation, aucun argument qui était vérifiable. Donc, à partir de là, nous, on considère que ce projet de SCOP, il était viable. D'ailleurs, il suffit de regarder aujourd'hui le développement de la riziculture en Camargue et les perspectives qui sont ouvertes en termes de marché pour être convaincu qu'effectivement, ça pouvait très facilement fonctionner et préserver des emplois stables et bien rémunérés. Donc, on est... Juste, mais alors sur la question économique globale, aujourd'hui, on voit bien que sur le parc, j'entendais tout à l'heure dire que, hypothétiquement, la compagnie des Salins, elle ne jouerait pas le jeu. C'est bien, ils prennent des positions qui sont dans leur intérêt en tant que capitalistes. Ils ne sont pas positionnés par rapport au bien ou au développement d'un territoire. Eux, ce qui les intéresse, c'est, je vais le dire comme ça, mais c'est le fric. C'est après, le reste, les conséquences, c'est aux autres. Et je pense que le politique, il a une responsabilité première d'intervenir pour régler ce genre de questionnement.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous maintenant au bar chez Ali pour venir boire un coup et rencontrer peut-être les intervenants de cette table. Ce soir, je rappelle que le cargo de nuit reçoit Apparat, que demain, ils recevront Marcio Faraco. Je rappelle aussi que le mensuel Le Ravi est en kiosque et que vous pouvez aussi vous y abonner. Je rappelle donc le site internet où vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires. www.leravi.org et vous pouvez même, si vous n'avez pas internet, les appeler au 04 91 08 78 77. Et en attendant que des palanquées de touristes chinois débarquent visiter le cloître, les arènes ou le parc national, on se quitte en écoutant les Chinese Men. Eux, ils sont de Marseille. Who killed the youth in a Titan? Who killed the youth in my girl crime champion? A judge and police in the Caribbean. No change at all for the youth children. Who killed the youth in a Titan? Who killed the youth in my girl crime champion? A judge and police in the Caribbean. No change at all for the youth children.
So I got my banjo out. Sitting catching dust. People cry 'cause they don't find that love. Get them up, up, mid revolution. Me know when I got to go up. I cannot give them all. Me know when I get shot. People cry 'cause they don't find that love. Get them up, up, mid revolution. Me know when I got to go up. What do you prepare?
Experience the world.
See the youth in the end of the takeout. See them in the river.
Experience the struggle.
Washing them hands and try to make things better. What do you prepare?
Experience the world.
See the youth in the end of the takeout. See them in the river.
Experience the struggle.
Just washing them hands and try to make things better.
So I got my banjo out.